BFM Bourse, on refait la séance.
Nos deux experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Pierre-David Quenu pour GSD Gestion. Bonsoir Pierre-David.
Bonsoir Guillaume.
Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Pierre-David.
Ah oui, ça faisait longtemps.
Ah oui, mais ça
je suis toujours là.
Vous êtes là.
Merci.
Bon pied, bon œil. Et Julien Marion, bien sûr, régulièrement à nos côtés, bfmbourse.com.
Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Pierre-David, envie de vous retrouver tous les deux.
Ravi aussi, -0,3 ce soir, le CAC 40. Wall Street souffre après des chiffres de l'emploi supérieurs aux attentes. C'est bon, hein, ça montre une vraie résilience du marché de l'emploi. Et ça ne va pas mener la Fed à baisser rapidement ses taux. Et c'est pour ça que Wall Street ce soir recule très nettement, -2,3%. Donc pour le Nasdaq, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle baisse pour le Nasdaq. Puisqu'on est sur la tech, quelle valeur tech européenne? Allez, quitte à investir dans la tech via l'Europe, parce qu'on voit que depuis le 1er janvier, on n'a pas à rougir de la tech américaine. Laquelle est-ce que vous préférez, vous? Laquelle est-ce que vous privilégiez, Pierre-David?
Alors nous, on aime bien SAP. Ah. SAP parce que en fait, depuis le début de l'année, elle souffre beaucoup. Même déjà, depuis une petite année, elle souffre beaucoup. Et en fait, on voit que sa transformation et son positionnement avec notamment l'IA est en train d'arriver. Et on pense que voilà, cette pas du tout intégré dans les cours d'aujourd'hui. En fait, elle transforme son logiciel de gestion dans une plateforme intelligente pilotée grâce à des données de l'IA. Et en fait, comme elle a, en termes de clients, eh bien, elle a des clients aussi bien dans le monde de la finance que dans l'industrie et autres. Donc, elle a quand même un carnet. Enfin, elle a une base très solide. Et on est convaincu que ce nouveau positionnement est très favorable pour SAP.
SAP, vous l'aimez bien cette valeur, vous en parlez souvent d'ailleurs. Vous dites SAP comme
non,
un...
Non,
SAP. Vous dites SAP, voilà. Voilà. Voilà, une valeur tech européenne, pourquoi pas, qui a cartonné hier, qui a rebondi avec Capgemini ou encore Dassault Systèmes. Voilà, on est dans ces tech qui tentent de rebondir et dans lesquelles vous continuez de croire. ASML aussi, qui aura touché cette semaine, Julien, un plus haut historique. Alors, d'elle-même, mais surtout pour une valeur européenne. Jamais une valeur européenne n'avait capitalisé autant dans l'histoire qu'ASML cette semaine.
Plus de 670 milliards de dollars. Ils ont battu le précédent record qui avait été établi par Novo Nordisk qui depuis dégringole complètement. Alors ce qui se passe avec ASML, on le sait, hein, s'ils font de la photolithographie, en gros pour simplifier, ASML c'est un acteur incontournable de la chaîne de valeur des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Hein. Ses principaux clients, c'est TSMC, c'est Samsung Electronics, c'est un des fondeurs de semi-conducteurs qui actuellement ont vraiment des croissances vertigineuses. Mmh. Enfin, il suffit de voir en fait les informations qu'il y a autour des Samsung Electronics, c'est le fait qu'ils ont accordé des primes alors faramineuses à leurs salariés qui travaillent dans la division de fonderie. Vous voyez donc qu'en fait, la demande est importante. En fait, l'enjeu du côté de ASML, c'est pas la demande. Hein. C'est un peu comme chez Airbus, hein, quelque part. Les capacités de production et la capacité à monter en puissance sur les machines de dernière génération. Et sur ce dernier point, les analystes ont tendance à être assez optimistes sur la montée en puissance industrielle du groupe. Et on peut penser qu'il y a eu un léger trou d'air sur la valeur, en fait, au cours des derniers mois, justement en raison de ces craintes. Donc, c'est pas impossible de voir ASML grimper à 700, 800 milliards de dollars.
Et un jour peut-être les 1000 milliards, là, comme ça devient le nouveau. Les nouvelles licornes en bourse, les licornes, c'est 1 milliard. Hein, oui.
Après.
En bourse, le nouveau benchmark, c'est 1000 milliards. On espère un jour qu'ASML sera 1000 milliards.
Après, quand on regardait les dernières entreprises à avoir atteint les 1000 milliards de dollars en bourse, donc c'est Samsung Electronics et SK Hynix, hein, qui en fait sont exposées à ce qu'on appelle les puces mémoire, hein, notamment des mémoires vives, sur lesquelles il y a une pénurie. Or, il faut savoir que, à peu près, je crois que c'est UBS qui calcule ça, entre 30 et 35% des revenus d'ASML sont indirectement exposés aux puces mémoire.
Gilles, vous êtes toujours avec nous depuis Boursicoté.com. ASML, d'un point de vue technique, après son record de capitalisation cette semaine, est-ce que vous lui trouvez encore beaucoup de potentiel? Les 1000 milliards de dollars, là, est-ce que vous les voyez venir, Gilles?
Alors moi, je ne regarde pas la capitalisation, hein, je regarde vraiment la configuration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Julien le soulignait, on a eu une petite phase de temporisation depuis la fin du mois de janvier. Et puis là, depuis le début du mois de mai, eh bien, on a réenclenché un nouveau mouvement haussier. Donc, on a des nouveaux plus hauts. Là, on s'attaque aux 1500. Et clairement, le fait de réenclencher cette phase de hausse après une phase de consolidation horizontale laisse du potentiel. Donc, effectivement, ça peut continuer à monter.
Cette question d'un auditeur, on reparlera de tech dans un instant, mais il faut aussi parfois savoir varier les plaisirs. Et beaucoup de particuliers sont investis dans cette valeur. Il s'appelle Léon Dumanil, il nous a écrit sur le Félix BFM Bourse, c'est FDJ United, Française des Jeux, donc on change vraiment d'univers. Pierre-David, comment voyez-vous la suite pour FDJ? Question de Léon Dumanil.
On est plutôt extrêmement positif sur la valeur. C'est une très belle valeur française aujourd'hui, hein, puisque aussi bien au niveau du rendement que de la revalorisation, elle est présente. Pourquoi ? Déjà, elle a un quasi-monopole extrêmement solide sur le marché, donc elle n'a pas vraiment de concurrent, on va dire. Elle a un très beau dividende, donc voilà, c'est aussi attractif pour les clients. Elle se paye pas cher, en gros 9 fois. Après, voilà, les inquiétudes qu'on pourrait avoir, c'est des inquiétudes qui sont liées à son positionnement géographique, hein, donc en ce qui concerne la réglementation, la fiscalité, oui. Voilà, tout ça c'est pas en sa faveur, mais globalement sa valorisation aujourd'hui reste très raisonnable compte tenu des atouts qu'elle a, donc effectivement c'est une bonne idée d'y aller.
FDJ United, Julien.
La question sur FDJ, c'est est-ce qu'ils ont atteint un petit peu le fond de la piscine ? Parce qu'en fait, depuis un an et demi, ils se sont un peu pris les 7 plaies d'Égypte. Hein. En fait, Pierre David soulignait en fait la réglementation, mais que ce soit aux Pays-Bas, en Royaume-Uni ou en Roumanie et même en France, hein, il y a eu à la fois des alourdissements de la fiscalité et des contraintes réglementaires qui font qu'en fait, aux Pays-Bas notamment, et en Angleterre, on a travaillé sur des mécanismes pour limiter en fait l'aspect addictif du jeu en ligne, en fait, ce qui a pesé sur eux. A priori, ça, on en vient à bout. Donc la question, en fait, au-delà de ça, ça va être la performance de, pas forcément la loterie en France, mais de ce qu'ils appellent la division online betting, donc tout ce qui est jeu en ligne, paris sportifs. Mmh. Et il suffirait, je pense, que cette division commence à progresser pour qu'en fait, on retrouve une dynamique positive. Ça a déjà été le cas lors de la dernière publication. On a commencé à dire, ça y est, ça commence un peu à revenir. Même si, de mémoire, ils ont abaissé leur perspective. Hein.
Oui,
donc, moi, je partagerais plutôt l'avis de Pierre David. Maintenant, c'est un titre qui a eu un parcours assez chaotique, on va pas se mentir.
Tout à l'heure, dans Valeurs Ajoutées, nos experts de Guébessac Gestion nous ont aussi présenté une autre valeur, alors italienne. Une valeur italienne dans la joaillerie, une pépite dont on n'avait jamais parlé encore dans BFM Bourse. On l'a découverte, cette société italienne qui fabrique des bijoux en or avec bracelets extensibles. En 10 ans, le résultat net a fait x10. Très simple. Alors, pour retrouver cette valeur, l'avis et les arguments de Gay-Lussac Gestion, retrouvez nos replays. C'est dans cette séquence valeur ajoutée qu'on vous propose quotidiennement. Elle est en ligne, cette séquence, ça y est, sur notre application BFM Business. Ouais, un acteur de la joaillerie qui a fait x10 sur son résultat net en 10 ans, dont on n'avait encore jamais parlé. Un acteur italien. Ça fait plaisir quand même. On n'est jamais au bout de nos découvertes sur la richesse des entreprises européennes. Voilà. Et italiennes, hein. On les admire quand même beaucoup, les Italiens, pour leur tissu de petites et moyennes entreprises. Là, il y en a une en bourse qui cartonne également. Air France KLM, Barclays, abaisse son opinion sur Air France. Le titre perd 1,2% ce soir. Ouais. Le titre gagnait sur un mois près de 20%, là, moins 1,2 ce soir. La sanction est pas trop sévère, manifestement. Pierre David, ça va?
Voilà, le groupe en 2025 avait publié les meilleurs résultats de son histoire, hein, un résultat opérationnel de plus de 2 milliards d'euros, 100 millions de passagers transportés, une réduction de l'endettement. Voilà, donc 2025 avait été une très belle année, avec un nouveau positionnement de Air France, hein, la montée en gamme des cabines premium, le développement de Transavia. Donc on paye un peu ça aujourd'hui, mais nous on pense que voilà, sur la valorisation d'aujourd'hui, sans faire fi de tous les risques, hein, qui sont liés évidemment au conflit au Moyen-Orient, le prix du pétrole qui est évidemment un vrai problème, on pense que assez court on peut jouer, mais plutôt sur du court terme. Voilà, c'est plus pour faire du trading qu'un positionnement long terme.
L'argument de Barclays, c'est attention, vous avez gagné Air France KLM des parts de marché avec le conflit au Moyen-Orient sur les compagnies du Golfe qui ont du mal, voilà, les compagnies européennes en profitent, ça va pas durer.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le conflit au Moyen-Orient ? Les compagnies du Golfe en fait ont dû réduire leur capacité, c'est-à-dire proposer moins de vols vers l'Asie et l'Afrique. Cette demande qui existe, elle a dû se reporter sur certains groupes, notamment Lufthansa et Air France KLM. Ce qui fait que quand vous regardez en fait les dernières données d'Air France KLM qui ont été partagées au marché, notamment en avril et en mars, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un bond de la recette unitaire par le chiffre d'affaires, en gros le revenu par siège kilomètre offert, par avion, quoi. Je caricature. Mais ce que Barclays vous dit, c'est que ça, en fait, c'est un effet d'aubaine qui n'a pas vocation à durer. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que vous dites, c'est que comme vous le dites, Guillaume, en fait, les compagnies du Golfe, selon Barclays, elles vont faire une offensive marketing pour reconquérir fait ces parts de marché temporairement perdues. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, ce windfall, c'est comme ça qu'ils disent, et un effet d'aubaine, va s'estomper.
On va monter encore plus haut qu'Air France KLM, là. On va garder l'espace. Et SpaceX, dans une semaine, on suivra les cotations SpaceX en direct. Ce sera normalement à 99,9% vendredi prochain, l'introduction en bourse. Est-ce qu'il faudra y aller ou pas sur SpaceX? Vous avez deux avis divergents, là. Vous irez ou pas? Qui veut se lancer en premier? Non, je dirais Julien, tiens. Julien, parce qu'il a envie d'y aller sur SpaceX.
SpaceX, on achète le rêve, si vous voulez. On achète, en fait, quelque chose qui... en fait, ne relève plus du réel, en fait. Et quand vous regardez, ça, c'est un papier qu'on a sorti aujourd'hui, beaucoup de banques, alors des banques conseils, donc, dont on peut penser qu'elles sont légèrement jugées parties, voient, en fait, des chiffres astronomiques. Moi, j'ai juste cité, en fait, Evercore IC. Pourquoi? Parce que Evercore IC, a priori, ne participe pas à l'introduction de SpaceX. Donc, ils sont plus, et eux, ils vous disent, en fait, qu'à l'horizon 2031, le chiffre d'affaires, il y passerait les 1000 milliards de dollars. Donc, dans 5 ans, 6 ans, on serait à plus de 1000 milliards de dollars contre 18 milliards l'année dernière. Si on prend en fait cette base, effectivement qu'il faut acheter cette action parce que à ce moment-là, on prend quelque chose qui est décuplé. Et c'est vrai que l'expérience de Tesla, c'était 90 millions de dollars de revenus à peu près en 2010. Aujourd'hui, c'est 90 milliards. Donc une multiplication par 100 en 15 ans. Sur un horizon plus long, certes, mais ça donne à réfléchir. Donc, par ailleurs, il y a un dernier point sur lequel on peut défendre l'argument en faveur d'un achat d'une action. C'est simplement l'effet, le train qui monte.
Oui.
Les gens, ils achètent parce qu'on achète. Ouais. Et la vérité, c'est que, ça c'est Morningstar qui vous dit ça, c'est qu'il y a tellement de banques qui vont acheter l'action pour soutenir, il y a certains fonds indiciels qui vont venir, que forcément, il y aura des co-acheteurs. Donc, voilà.
Oui, oui. Et avec les ETF, la valo compte beaucoup moins qu'avant. Pierre-David, vous resterez néanmoins à l'écart, hein, les arguments.
Alors, nous, on reste à l'écart dans un premier temps, tout simplement parce qu'on trouve que la valorisation est bien trop élevée. Hein, donc, c'est l'équivalent de, en gros, 90 fois son chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, c'est évidemment...
Quand Amazon s'était introduit à 3 fois son chiffre d'affaires.
Donc, pour nous, la valo est extrêmement élevée. Certes, hein, comme l'a dit Julien, il y a un très fort potentiel, mais nous, on pense qu'il y a quand même des problèmes, notamment de gouvernance, hein, puisque c'est simplement contrôlé par Elon Musk. Bon, voilà, on peut prendre ça. L'exécution, la valorisation repose simplement sur le succès futur d'un marché, d'une infrastructure spatiale et de marchés qui ne sont pas totalement existants aujourd'hui, encore en tout cas à grande échelle. Donc nous, notre réflexe, c'est de voir comment ça se passe. Et puis, après une introduction qui sera certainement très bonne, s'il y a un vrai retour de ce positionner pour du très long terme.
Merci. Oui, c'est peut-être sur la deuxième vague que
voilà.
Quand ça rebaissera.
Oui, la question, c'est est-ce que vous jouez la première semaine, le premier mois, la première année, la décennie ou 100 ans.
Oui. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Très intéressant. Pierre-David Quenu, GSD Gestion, et Julien Marion, BFMBourse.com. L'article est disponible.